Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans son épître, saint Paul parle d'une lutte acharnée entre deux adversaires, la chair et l'esprit. C'est un thème qu'on retrouve souvent sous la plume de saint Paul quand il veut décrire ce combat intérieur dont tout chrétien fait l'expérience dès qu'il essaie de fournir quelques efforts pour se sanctifier. Nous verrons qui sont ces deux adversaires et le combat qu'ils se livrent l'un à l'autre. Les adversaires. Donc c'est d'abord la chair. Ce terme, la chair, désigne toute notre nature humaine viciée par le péché originel en tant que siège de nos passions déréglées. Il ne s'agit pas uniquement des passions proprement charnelles. Cette concupiscence de la chair dont parle saint Paul englobe toutes les facultés de notre âme, y compris les plus hautes, comme l'intelligence et la volonté. C'est notre nature même qui est blessée par le péché originel. Vous les connaissez, les quatre blessures du péché originel. D'abord, les deux blessures de faiblesse et de concupiscence. La concupiscence au sens propre, cette attirance vers les plaisirs sensuels. Ces deux blessures de faiblesse et de concupiscence nous entraînent vers les péchés comme la débauche, l'impureté, l'ivresse, etc., qui sont mentionnés dans l'Épître. Mais il y a aussi les deux autres blessures. La blessure de la malice dans notre volonté, par laquelle nous avons du mal à faire le bien. Et l'aveuglement dans notre intelligence, par lequel nous ne reconnaissons pas la vérité. Ces deux blessures aboutissent aux inimitiés, des discordes, des jalousies, des colères, des haines et les autres offenses contre la charité et l'union nommées par saint Paul. Et cela peut aller jusqu'aux offenses directement contre Dieu, comme l'idolâtrie et la magie. Même après le baptême, ces blessures restent et la chair se rebelle contre l'esprit. Donc c'est le deuxième adversaire, l'esprit. Il ne s'agit pas directement de l'Esprit Saint avec un E majuscule, mais plutôt l'esprit du chrétien, l'âme, en tant qu'elle est dirigée par l'Esprit Saint. Une force surnaturelle déposée dans l'âme du chrétien par la grâce du Saint-Esprit, qui lui donne une mentalité régénérée, nouvelle. Alors, ces deux adversaires ne sont pas deux personnes distinctes, malgré cette opposition radicale entre eux. On peut avoir cette impression. La chair et l'esprit se livrent de violents combats en nous. Nous sommes tiraillés par des désirs contraires. Nous sommes soumis au supplice de l'écartèlement. On dirait qu'il y a deux hommes en nous, deux volontés absolument opposées l'une contre l'autre. Et saint Paul va jusqu'à dire « Vous ne faites pas ce que vous voulez », comme si on était vraiment contraint physiquement de faire le contraire de ce que nous voulons. Mais en réalité, en nous examinant, nous nous rendons bien compte que nous n'avons trop souvent que des velléités de bien faire, des désirs incomplets de fuir le péché. Nous donnons bien notre consentement au mal. La lutte intérieure rend nos chutes plus compréhensibles, mais elle ne supprime pas notre responsabilité morale. Quand nos mauvais penchants ont pris le dessus, c'est parce que nous ne les avons pas assez combattus. L'homme a souvent cherché à blâmer son corps ou la matière pour excuser ses mauvaises tendances. Que ce soit le dieu du mal des manichéens qui aurait créé notre corps avec ses mauvais désirs, ou une corruption foncière et irrémédiable de notre nature humaine, d'après Martin Luther. Mais non, notre nature tout entière, corps et âme, même si elle est blessée et déréglée, est bonne en soi et appelée à la béatitude éternelle. Saint Paul le promet aux Corinthiens. Ce corps animal ressuscitera spirituel. Ce corps corruptible ressuscitera incorruptible. Il revêtira l'incorruptibilité. Mais on n'obtient pas cette béatitude finale qu'au prix d'un combat acharné. C'est justement ce qu'on va voir maintenant, le combat. D'abord, ce combat est nécessaire. Nous ne pouvons pas rester neutres ou seulement subir cette lutte, presque en spectateur, en attendant d'en être délivrés par la mort. Le baptême a fait de nous des lutteurs, rappelez-vous, des cérémonies, des onctions au baptême. Nous avons été oints avec de l'huile sur les épaules, exactement comme les gladiateurs et les lutteurs, avant de descendre dans l'arène pour ce combat à mort. Si nous ne combattons pas, nous serons emportés infailliblement par la chair et ses violentes attaques. Alors on pourrait se dire, à quoi bon? Les sollicitations de la chair sont justement tellement fortes et incessantes que nous n'arriverons jamais à les vaincre. Évidemment, nous n'arriverons pas tout seuls. Il faut nous laisser conduire par l'Esprit, avec un majuscule cette fois, l'Esprit Saint. Saint Paul dit, « Si vous êtes guidés par l'Esprit, vous n'êtes pas sujet de la loi, la loi du péché. » Et Saint Jean Chrysostome, en parlant de ce combat, dit que le chrétien est armé de Dieu. C'est Dieu qui est notre armure et notre arme pour combattre. Alors, comment? Dans la pratique, il y a deux aspects à tenir dans cette guerre de nous-mêmes contre nous-mêmes qui sont indiqués par Saint Paul. D'abord, un aspect un peu plus actif, c'est quand il dit vers la fin qu'il faut crucifier la chair. C'est la mortification universelle dont parle Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. La mortification de tout notre être. Et puis un autre aspect un peu plus passif, non pas passif dans ce sens où nous n'avons pas d'efforts à fournir, mais en ce sens que ces efforts consistent surtout à laisser faire, ce qui est parfois plus difficile. Il s'agit de se laisser diriger par l'Esprit. Donc d'abord, le premier aspect, cet aspect de crucifier notre chair. Dans n'importe quelle guerre, on cherche à affaiblir son adversaire. Si nous voulons que l'Esprit l'emporte sur la chair, il faut la crucifier avec ses passions et ses désirs. Donc ça passe par la mortification corporelle, donc mortifier nos goûts dans la nourriture, notre recherche exagérée du confort. Mais ça passe aussi, comme nous l'avons vu, par la mortification de nos facultés plus hautes. Donc mortifier notre imagination, nous interdire des rêvasseries, être bien à ce qu'on fait en accomplissant son devoir d'État. Aussi mortifier la curiosité, sur Internet par exemple. Aussi mortifier notre intelligence en ce qui concerne nos opinions, de ne pas nous entêter pour soutenir nos opinions, laisser parler les autres, mortifier notre amour propre par rapport à l'estime des autres à notre égard, nous mettre à la dernière place. Et n'attendons pas le moment de la tentation pour nous exercer à cet esprit de sacrifice. Pensons-y avant. Préparons-nous au combat en allant au-devant des situations plus difficiles, en essayant de créer des habitudes qui nous aideront plus tard dans la tentation. Soyons méthodiques, c'est-à-dire de choisir une petite pénitence qu'on fera régulièrement, plutôt que de laisser cela au hasard avec une résolution vague de faire un peu plus de pénitence. Par exemple, ça peut être de choisir tel jour de la semaine où on se privera de quelque chose, un dessert, où on se privera des recherches sur Internet. Rappelons-nous cette règle d'or, toujours. Pour être capable de dire toujours non à des désirs illégitimes, il faut savoir dire parfois non à des désirs légitimes. Pour être capable de dire toujours non à des désirs illégitimes, il faut savoir dire parfois non à des désirs légitimes. Alors maintenant, le deuxième aspect, le fait de se laisser guider par l'Esprit Saint. Saint Paul dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, entendez bien, il ne s'agit pas ici de se libérer de toute autorité sous prétexte qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Quand Saint Paul parle du fait d'être affranchi ou libéré de la loi, il veut dire que la rigueur littérale des préceptes et des lois n'est plus sentie par celui qui agit par un esprit d'amour. Il ne fait plus de calculs pour savoir comment se débrouiller pour faire le strict minimum requis par la loi. Le disciple du Christ pratique sa foi avec une spontanéité qui multiplie les témoignages de son amour pour Dieu. D'où la variété infinie de ces témoignages dans la vie des saints. On découvre toujours des choses nouvelles et étonnantes en lisant la vie des saints, comment ils se sont ingéniés pour trouver de nouvelles manières pour se mortifier ou aimer le prochain et pratiquer la charité. Dès lors, les préceptes ne contrarient pas notre liberté. Plutôt, ils en facilitent et précisent l'exercice. Parce que les lois et les préceptes poursuivent le même but que le chrétien est pris d'amour. Il n'y a de contrainte que si on pratique la loi à contre-cœur. Donc, pratiquement, pour suivre la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on doit faire? Ben, on commence justement par la volonté de Dieu signifiée. Vous savez, on distingue entre la volonté de Dieu signifiée et la volonté de Dieu de bon plaisir. La volonté de Dieu signifiée, ce sont des règles, des préceptes, des commandements de Dieu ou des règlements d'une collectivité ou les règlements dans la maison, dans une famille chrétienne. Il faut d'abord s'exercer à l'obéissance par rapport à ça, des choses où c'est clair. Une fois qu'on est exercé dans l'accomplissement de cette volonté de Dieu signifiée, après on discernera mieux la volonté de Dieu de bon plaisir. C'est quoi cette volonté de bon plaisir? En fait, c'est la volonté de Dieu dans les situations qui ne sont pas prévues par la loi, qui ne sont pas écrites quelque part. C'est des situations dans lesquelles on peut se trouver et on ne sait pas trop ce que le bon Dieu nous demande. Mais si on a déjà l'habitude de faire ce qu'il nous demande quand c'est clair, il nous éclairera quand c'est pas clair. Donc, pour savoir s'il faut acheter telle maison, accepter tel emploi, ce qu'il faut dire à quelqu'un dans une situation un peu délicate. On peut faire une comparaison avec le cerf volant. Vous savez, le cerf volant, est, comment dire, c'est le vent qui fait monter le cerf volant, qui le maintient dans l'air. Mais il y a quand même un certain art que nous devons acquérir pour savoir comment tirer ou tenir les ficelles de façon à capter ce vent, à laisser faire le vent. Et c'est comme ça dans la vie spirituelle. Donc, pour conclure, on reconnaît un arbre à ses fruits. Saint Paul énumère les fruits de deux arbres, l'arbre de la chair et l'arbre de l'esprit. Et à la vue de cette énumération, on voit bien la différence entre les deux. C'est à nous de choisir entre, d'un côté, la débauche, l'impureté, les divisions, les haines, et de l'autre côté, la joie, la paix, la bonté. Donc, remarquons en particulier l'insistance de Saint Paul sur les bons et mauvais fruits concernant la vie commune, la charité fraternelle, l'union entre les personnes. Examinons-nous là-dessus. Est-ce que moi, je porte les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair? Est-ce que je sème autour de moi la division par des médisances, par mes plaintes, par mon égoïsme? Ou est-ce que je suis un artisan de paix et de réconciliation? Est-ce que je répands la bonté, la paix et la mansuétude? Demandons aujourd'hui à la Sainte Vierge la grâce d'être plutôt dans ce deuxième cas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.